RFI. Grand reportage.
Minions have spawned.
Des stades remplis, des centaines de millions de fans à travers le monde et un marché évalué à plus d'un milliard de dollars en 2021. Le jeu vidéo professionnel s'impose progressivement dans l'imaginaire collectif et dans l'économie. En Corée du Sud, voilà plus de deux décennies que la discipline est prise très au sérieux. Café Internet, centre de formation pour futurs joueurs professionnels et fédération plongée dans le monde de l'e-sport sud-coréen. En Corée du Sud, le jeu vidéo, tout sauf un divertissement, c'est un grand reportage de Nicolas Roca.
Dès la nuit tombée, les lumières des enseignes viennent illuminer le quartier étudiant de Hongdae, connu pour sa vie nocturne animée. Au milieu des affiches qui attrapent le regard dans les rues de Séoul, l'une revient plus que les autres, deux lettres de l'alphabet latin et trois en coréen. PC Bang, ces cafés internet géants sont au cœur de la culture locale du jeu vidéo. Dans la seule capitale, on peut en trouver plus de 1800. Eric est venu s'installer en Corée du Sud il y a maintenant 2 ans. Ce jeune Allemand débute et finit généralement ses journées dans ces fameux PC Bang.
Un PC Bang, vous devez vous imaginer un hall avec des centaines d'ordinateurs et où chacun fait ses affaires. Donc vous y allez seul et peut-être que vous n'avez pas énormément d'amis. Mais ça vous donne le sentiment d'appartenance à une communauté.
En descendant les marches qui mènent à un véritable temple du jeu vidéo, on découvre une salle immense, assez sombre, où se succèdent les ordinateurs. Ici, il n'y a aucune raison de quitter son écran. Nourriture, boisson et même un coin fumeur, tout est à disposition. Des conditions de jeu uniques et propices aux rencontres, à l'image des amis d'Eric, Pyongwok et Yunsu, deux étudiants qui partagent le temps entre l'université et le PC Bang. Et pour ce groupe d'amis de circonstances, comme pour les autres joueurs, un sport est roi, League of Legends. Ce jeu vidéo d'arène apparu en 2009 a fait exploser l'industrie du e-sport, particulièrement ici. Sur 11 championnats du monde, seules 3 finales ont eu lieu sans équipe coréenne, un événement que Yunso ne manquerait pour rien au monde.
Il y a 4 ans, j'étais allé dans un stade pour regarder la finale, mais c'est vraiment triste parce que tous mes amis adorent League of Legends et c'était un de nos passe-temps d'aller voir les matchs ensemble. Mais c'est fini, on ne peut aller nulle part.
Et cette année, c'est la Chine qui l'a emporté devant 73 millions de spectateurs en ligne. Pour Pyongwok, l'empire du milieu est le grand concurrent de la Corée du Sud dans le domaine.
Nous sommes très bons à League of Legends, mais il y a des limites claires en Corée, que ce soit les restrictions sur le temps de jeu pour les jeunes ou bien les investissements des sponsors. Le jeu vidéo n'est toujours pas assez répandu. Nous avons la culture du jeu, mais nous restons marginaux. Donc beaucoup de nos joueurs professionnels partent en Chine pour un meilleur salaire.
Yunsu préfère rappeler quel pays a créé cette culture du jeu vidéo si particulière.
Je pense qu'à l'origine, il y a les équipes sud-coréennes. Donc la Chine adopte la culture et les joueurs coréens. Mais rien ne vaut le produit d'origine. Ce sont des suiveurs, sans vouloir offenser la Chine.
Les images de liesse dans les rues chinoises lors des dernières finales des championnats du monde, comme la taille du marché, laissent à penser que la concurrence sera rude dans les années à venir pour les Sud-Coréens. Malgré tout, Eric reste fasciné par cet univers spécifique à la Corée.
Nous n'avons pas la culture des PC Bang en Europe. Au lieu de jouer ici, nous le faisons seul à la maison. On joue seul dans notre chambre, on le fait par soi-même. Mais en Corée du Sud, par exemple les deux personnes que vous avez interviewées juste avant, nous ne sommes pas d'excellents amis, mais on se voit tous les jours. Donc ça donne un sentiment de communauté et d'amitié parce qu'on partage une passion. Et ça, je pense que c'est spécifique à la Corée.
Un environnement inégalable pour permettre aux meilleurs joueurs d'éclore. Les championnats du monde de League of Legends, la mecque du jeu vidéo, sont le symbole de ce vivier sud-coréen hors norme. Sur les 8 joueurs de la dernière finale, 6 venaient du pays du matin calme. Une réalité que Genji, ou Génération Gaming, a bien intégrée. En 2019, l'entreprise créée aux États-Unis a installé en plein cœur du quartier de Gangnam un véritable centre de formation dédié aux jeux vidéo.
Annyeonghaseyo. Hello. Thanks to have me. Bonjour.
We operate a lot of professional.
Nous dirigeons des équipes professionnelles dans les trois plus grands marchés que sont la Corée du Sud, les États-Unis et la Chine. Et nous investissons particulièrement désormais dans les futurs leaders de l'e-sport. Donc, nous créons différents programmes où nous aidons les élèves à réussir à travers les jeux vidéo et l'e-sport.
Joseph Peck, le directeur de l'établissement.
En clair, c'est une école internationale pour les jeux vidéo. Les étudiants viennent ici et obtiennent leur diplôme de lycée. L'objectif est soit d'avoir une carrière en tant que joueur professionnel, ou bien, s'ils n'y parviennent pas, ils utilisent l'expérience qu'ils ont pu acquérir ici pour obtenir une bourse d'études dans une université américaine spécialisée dans l'e-sport.
Selon lui, les débouchés sont donc variés pour ceux qui ont les moyens de s'acquitter des imposants frais de scolarité de l'institution, 25 000 dollars par an, soit le prix d'une année d'études dans une école internationale à Séoul.
Dans notre école internationale d'e-sport, les effectifs sont limités, car c'est un groupe soudé et ce sont des études intenses. Donc, nous avons entre 30 et 40 élèves. Il y a déjà 3 étudiants diplômés qui sont allés dans des universités et 2 d'entre eux ont eu des bourses d'études très significatives pour l'e-sport. Et nous avons également eu 12 élèves qui sont soit joueurs stagiaires dans des équipes professionnelles, soit joueurs professionnels.
Une carrière que tous ne pourront pas poursuivre car, comme dans tous les sports professionnels, les places sont chères. En première division sud-coréenne de League of Legends, il n'y a que 200 élus, une réalité que certains élèves ont parfaitement en tête.
Je suis actuellement élève à l'académie de Genji. Je m'appelle Dong Junli et j'étudie l'e-sport pour devenir entraîneur, travailler dans le marketing, le business. Je souhaite avoir une carrière dans n'importe quel domaine du jeu vidéo.
Mais pas en tant que joueur.
De base, je voulais devenir enseignant, donc quand j'ai candidaté ici, j'envisageais plutôt de jouer un rôle dans le domaine éducatif ou bien dans l'accompagnement. C'était donc plutôt logique finalement de vouloir être entraîneur.
Voilà 2 ans que le quotidien de Dong Jun se divise entre des matinées classiques consacrées à des études traditionnelles et des après-midi dédiés aux jeux vidéo. Une hygiène de vie spécifique à laquelle s'est habitué le jeune homme de 19 ans.
En plus des heures que je passe ici le soir, quand je rentre chez moi, je passe 3 à 5 heures sur les jeux vidéo. Mais ce temps n'est pas consacré uniquement à jouer, je regarde également beaucoup de matchs professionnels ou d'autres contenus liés au gaming.
Alors on imagine que pour des parents, c'est pas forcément facile d'inscrire son fils dans un lycée spécialisé dans l'e-sport. Comment est-ce qu'on parvient à les convaincre de venir dans une école comme celle-ci ?
Mes parents étaient très clairement opposés à mon désir de venir ici. C'était la première école dédiée à l'e-sport. C'était donc une prise de risque d'étudier ici. Mais comme j'avais un objectif clair, j'ai passé énormément de temps à discuter avec eux, à échanger. Et finalement, je suis parvenu à les convaincre.
Un défi pour tous ceux qui fréquentent les couloirs de cet établissement qui ressemble à s'y méprendre à ceux d'une institution classique. Les salles de classe sont remplies de bureaux blancs, avec au fond un tableau et un professeur. Mais si l'on descend d'un étage, alors on pénètre dans l'antre des joueurs, ce pourquoi les élèves viennent ici, les salles de jeu. L'une d'entre elles est dédiée uniquement à League of Legends. Nous y retrouvons Anthony Bazir, ce jeune Français de 22 ans. Lui n'est plus étudiant, mais joueur stagiaire au sein de Genji eSport et il observe les plus jeunes.
Ils ont quoi comme niveau à peu près ?
Environ Diamant Master.
Okay.
Moi je suis Master.
Donc toi tu as des sessions de gens qui re-regardent les matchs avec toi et qui t'expliquent ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait ?
De manière générale, oui. En solo queue, on fait ça, en partie classée solo, on fait ça genre de notre côté. Mais après les entraînements en équipe, en général, on regarde le replay, puis on regarde qu'est-ce qui va pas, les grosses erreurs qu'il y a eu. Et lorsqu'il y a eu des bons scénarios, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ? Si par exemple, des fois c'était un peu trop risqué ou autre, quelles étaient genre les alternatives. Et en général, c'est surtout histoire de développer un meilleur recul sur la situation pour la prochaine fois.
Et tout se passe en anglais ou ?
Non, les feedbacks dans l'académie sont en coréen parce qu'ils parlent tous coréen, donc du coup c'est moins de m'adapter.
Tu fais comment ?
Au fur et à mesure du temps avec le contexte, le ton de voix et la situation, j'arrive à comprendre genre 90% du truc et le reste après c'est un peu de la déduction.
Le seul étranger de l'académie détonne avec ses cheveux clairs, sa mèche qui tombe sur son front et ses larges épaules. Désormais, il est salarié, perçoit quelques centaines d'euros par mois, mais il est également logé et blanchi par l'équipe qui espère le voir percer un jour.
Je viens d'une petite ville en banlieue au sud-est de Paris. À la fin de ma première année d'université, j'ai eu l'opportunité de faire des essais ici pour l'Académie Genji. Et après que ça s'est bien passé, qu'on a résolu quelques problèmes de visa par-ci par-là, je suis venu en Corée. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis ici d'affilée. Et suivant comment se passent les tests pour l'année prochaine, ce sera peut-être 2 ans ou plus.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ressemble pour toi une semaine classique ?
On s'entraîne 6 jours sur 7. On a une pièce de joueurs académie juste pour nous. En général, on se lève vers midi. Il faut qu'on arrive à 12h30. Ensuite, on se prépare, on fait ce qu'on veut pendant 30 minutes. Ensuite, on s'entraîne de 13h à 17h. Ensuite, on a 2 heures de temps libre. Donc, en général, on mange, on va à la salle de sport, on s'entraîne, on fait un peu ce qu'on veut. Et ensuite, après, de 19h à 2h, 3h du matin, on s'entraîne donc soit en équipe, soit en solo. Et en général, les journées, c'est ça. Les heures d'entraînement, ça peut varier entre 10 et 14 heures, on va dire, c'est la grosse moyenne. Des fois, il y a des jours où ça va être plus, ça va être genre 16, 17 heures. Dans les grosses périodes, par exemple, d'essai ou autre, on essaie de vraiment se donner à fond. Et en général, c'est ça 6 jours sur 7. Le dimanche, en général, on fait un peu ce qu'on veut. Quasiment tout le monde essaie de récupérer le maximum de sommeil possible. Ça arrive que genre, on dorme 12-13 heures d'affilée.
On sait que tout va extrêmement vite dans l'e-sport. Faker, qui est la plus grosse star du jeu vidéo en Corée du Sud, va bientôt prendre sa retraite à 25 ans. Est-ce que avoir 22 ans et ne pas encore être professionnel, c'est quelque chose qui génère du stress chez toi ?
Les gens pensent qu'avec l'âge, la raison pour laquelle les joueurs deviennent moins bons, c'est à cause de la vitesse, de la coordination œil-main, etc. Non, c'est pas vraiment le cas. La raison pour laquelle les gens, une fois qu'ils ont 25, 26 ans, ils commencent à tendre vers le bas, c'est parce que le jeu change et du coup, le style de jeu est différent. Et aussi le fait que t'as beau être passionné, t'auras jamais la même étincelle que quand t'avais, disons, 16-17 ans, que tu rentrais, que tu détestais tes cours, que tu étais crevé, que tu voulais juste jouer, que tu adorais jouer, que c'était une source pour t'échapper. Quand ça devient ton job, que tu fais ça 14 heures par jour pendant 5, 6, 7 ans, que tu passes par des moments qui sont très très douloureux, ça s'est pu voir à la fin des championnats du monde en 2017 pour Faker, de prendre ce genre d'échecs et de moments durs. La passion devient très douloureuse, on va dire, et après bah, c'est juste le cerveau. Si tu fais un truc de douloureux pendant très très longtemps, au bout d'un moment il va moins se donner à fond. Mais en général, c'est plus ça, c'est vraiment juste la passion qui peut plus être autant étincelante qu'au lycée.
Une passion qui doit se transmettre de génération en génération pour que la Corée du Sud reste au sommet. Pour cela, le pays a su se doter d'infrastructures solides. Dès 2000, une fédération a été créée et elle régit les compétitions de jeux vidéo dans le pays. À l'intérieur des locaux de KESPA, ou Korean Esport Association, un véritable musée a été installé afin de retracer 2 décennies d'histoire du jeu vidéo professionnel en Corée du Sud. Hyuk So-shin, directeur du développement au sein de la fédération, nous fait le tour du propriétaire.
Cette zone-là a été conçue pour représenter l'histoire de l'e-sport coréen. Cela commence en 1988 et jusqu'à aujourd'hui.
Ça commence par StarCraft qui était le jeu principal à l'époque.
Oui, c'est StarCraft, le jeu qui a créé l'e-sport moderne. Depuis StarCraft, nous avons développé un écosystème dans le marché du jeu vidéo professionnel. Et puis, il y a eu cet événement historique où 100 000 personnes se sont réunies pour regarder un seul match.
C'est à ce moment-là que vous vous dites « Ok,
On se dit qu'il y a du potentiel. Nous avions une équipe dans l'armée de l'air coréenne, car tous les hommes doivent servir l'armée durant 2 ans. Donc, pour faire en sorte que les joueurs n'arrêtent pas leur carrière à cause de la conscription, du service militaire obligatoire et du fait que l'e-sport devenait de plus en plus connu, le gouvernement a décidé de créer une équipe dans l'armée en 2007. L'e-sport coréen était vraiment connu en Chine. Il y a beaucoup de joueurs coréens connus qui jouent dans les championnats chinois. Donc cela grossit constamment. Et je pense que de 2013 à 2017, lorsque League of Legends a émergé, cela a totalement transformé l'écosystème et l'industrie de l'e-sport.
Dans quel sens ça l'a transformé ?
Plus sérieux, plus d'argent, un système mieux rodé, plus de jeux, plus de compétitions.
Si le jeu a permis à la fédération d'effectuer un pas de plus dans la reconnaissance du jeu vidéo comme sport professionnel, elle vise toujours plus haut. Justement, l'un des combats de Hyun Suk est de diversifier les compétitions de e-sport.
Nous essayons de mettre en place un système pour les équipes nationales, car l'e-sport a été choisi comme un sport officiel aux Jeux asiatiques de Hangzhou en 2022. Si les gens commencent à voir les joueurs d'e-sport comme des athlètes qui peuvent représenter notre pays, alors cela permettra de lutter contre les perceptions négatives que les gens ont de l'e-sport.
It will challenge the negative perception of e-sports. So that's what I mean.
Des critiques qui, en Corée du Sud comme ailleurs, sont nombreuses et contre lesquelles Hyun Suk s'attache à lutter.
L'e-sport peut être un sport, il peut être géré par le secteur privé, mais aussi par le secteur public. Nous avons affronté des critiques qui expliquent que l'e-sport n'est qu'un outil marketing pour les entreprises de jeux vidéo. Mais nous pensons que c'est plus que ça, et le fait que l'e-sport devienne une discipline aux Jeux asiatiques prouve son potentiel.
En 20 ans, la pratique du jeu vidéo professionnel s'est installée dans l'imaginaire collectif comme dans les faits en Corée du Sud. La preuve, l'un des objectifs de la fédération est désormais de lutter contre le dopage qui, comme dans d'autres disciplines sportives, sévit. Mais si le pays a su profiter de la pratique intense des jeux vidéo d'une partie de sa population, c'est également grâce au rôle de l'État qui a su soutenir le secteur.
L'industrie du jeu vidéo sud-coréen a augmenté de 8,5% par an, ce qui représente deux fois la croissance moyenne en Corée du Sud. C'est pour cela qu'on la considère comme un secteur à forte valeur ajoutée, notamment en termes d'exportation.
Chargé du secteur des jeux vidéo et de l'e-sport au sein du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, Cho Han-jang se réjouit du succès croissant du secteur. Toujours prompt à promouvoir les succès nationaux, le gouvernement sud-coréen n'a pas fait de l'e-sport une exception.
Avec le ministère et d'autres organisations, comme la fédération, nous essayons constamment de promouvoir l'e-sport au quotidien. Nous créons par exemple des stades à Busan ou dans d'autres provinces. Et nous soutenons aussi par exemple le développement de compétitions au niveau amateur.
Dès 2006, les autorités ont adopté une loi pour favoriser la promotion des jeux vidéo à travers des agences gouvernementales. Quelques années auparavant, l'industrie avait déjà bénéficié d'un coup de pouce de l'État en étant inclus au programme du service militaire civil alternatif, permettant ainsi aux entreprises du secteur de bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée à moindre coût. Mais le gouvernement a aussi encadré la pratique des jeux vidéo.
Nous avouons que le temps de jeu des plus jeunes a augmenté ces dernières années et nous craignons les conséquences néfastes que cela peut avoir. C'est pour cela que nous avons créé la loi dite du shutdown qui vise à limiter le temps de jeu pour les mineurs.
Une loi qui interdisait encore récemment les mineurs de moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures du matin.
Nous avons débuté cette loi il y a désormais 10 ans et depuis le 1er janvier 2022, elle n'est plus en application. Nous considérons qu'il est plus important de soutenir les plus jeunes à choisir ce qu'ils veulent faire pour leur développement personnel et leur bonheur. C'est aux parents d'aiguiller les enfants vers le meilleur chemin et nous voulons pousser les jeunes à être plus responsables.
Une décision à contre-courant de celle prise par le voisin chinois qui, depuis début septembre, limite sévèrement l'usage des jeux vidéo chez les mineurs. Deux politiques différentes pour un même secteur qui réunit près de 110 millions de joueurs de moins de 18 ans en Chine, soit plus de deux fois l'intégralité de la population du pays du matin calme qui tente de pallier à la force du nombre chinoise par l'intensité de sa passion et un attachement aux jeux vidéo unique au monde.
En Corée du Sud, le jeu vidéo tout sauf un divertissement, un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Pauline Leduc.